J'ai beaucoup de joie d'être avec vous ce matin, une fois de plus. C'est toujours un grand plaisir. Merci pour votre accueil. Et aujourd'hui, on va méditer sur le psaume 121. Vous verrez qu'il y a vraiment beaucoup de choses à en retirer. Et j'ai un PowerPoint, psaume 121, introduction au voyage de la vie. C'est un grand titre. Et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Mais on va commencer par lire ce psaume. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Alors, lorsque je me suis levé ce matin, j'ai regardé par la fenêtre et je vois un petit peu les Alpes, pas beaucoup, mais un petit peu, et je trouvais ça absolument magnifique. Alors, c'est pas tout à fait le même type de montagne dont il est question ici. C'est des montagnes physiques, mais ces montagnes-là, elles sont vraiment redoutantes. Il faudra les traverser pour arriver à Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ce psaume 121 évoque? Eh bien, un voyageur, un pèlerin qui part de Jéricho ou d'ailleurs et qui souhaite se rendre à Jérusalem pour adorer Dieu. C'est à Jérusalem que le temple est construit et c'est là que on vient adorer Dieu. Mais pour arriver à Jérusalem, il faut traverser des montagnes. Alors, ce psaume fait partie des psaumes des degrés ou chants des montées. Et ce psaume est inscrit dans une collection de 15 psaumes, les psaumes 120 à 134. Et ces psaumes-là, les pèlerins, en marchant de Jéricho jusqu'à Jérusalem, ou de Bethléem jusqu'à Jérusalem, ou de Judée jusqu'à Jérusalem, eh bien, les pèlerins chantaient ces psaumes. Et ils les méditaient lorsqu'ils allaient à Jérusalem pour la fête des tabernacles, pour Pessah, etc. Alors, moi j'ai écouté de la musique dans ma voiture, en venant de la Neuville jusqu'à Bienne. Eh bien là, les pèlerins n'avaient pas de poste radio, ni de wifi, ni rien, mais ils chantaient ces psaumes. Mais ils les chantaient pour se redonner du courage. Alors, avant d'arriver à Jérusalem, il fallait marcher et tous les dangers étaient possibles. Qui s'est déjà promené dans ces montagnes avant Jérusalem? Qui a déjà fait de Jéricho à Jérusalem? Moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait en 4x4 avec un guide et un 4x4 climatisé et j'étais drôlement content de le faire ainsi. Et le guide nous a permis de marcher quelques centaines de mètres à certains endroits, mais c'est tout sauf hospitalier. Hein. Vous ne prenez pas un téléphérique et puis vous arrivez en haut, puis en haut vous avez une vue phénoménale. C'est un petit peu les clichés qu'on a nous. Hein. Là, c'est bien différent. Qu'est-ce qui se passe quand vous traversez ces montagnes? Eh bien, vous pouvez tomber dans un ravin. Alors, si c'est la journée que vous marchez, là, vous pouvez peut-être encore prévoir. Mais si c'est la nuit, puisqu'il est question de nuit dans ce psaume, on va y arriver tout à l'heure, eh bien, la nuit, vous pouvez tomber dans un ravin. Vous pouvez vous perdre, parce que ces montagnes, à l'époque, ce n'est pas comme nos montagnes, le Chasseral, vous souhaitez monter au Chasseral, vous aurez 36 panneaux indicateurs tous les 100 mètres. Et franchement, j'allais dire, il faut être bête pour se tromper. Hein. Donc, vous arriverez à l'antenne du Chasseral, et puis là, vous pourrez boire un bon café, puis redescendre par la route. Hein? Mais vous avez 36 000 panneaux indicateurs. Là, il n'y en a aucun. Donc, vous êtes dans le désert, vous marchez, vous espérez que vous ne vous trompez pas, mais il y a le risque, même si vous connaissez ce désert, vous pouvez à un moment donné tourner en rond, vous tromper et manquer de nourriture ou de boisson. J'ai parlé du chasseral. Quand vous arrivez en haut, vous achetez un bon café et vous redescendez. Là, il n'y a pas de restauration au milieu du désert. C'est exclu. Donc, vous pouvez manquer de nourriture, succomber à la fatigue, mais vous pouvez aussi rencontrer des bêtes sauvages, en particulier des serpents. Ça nous est arrivé, le guide était devant et il nous a dit « prenez 10 mètres à droite parce qu'il y a un serpent ». Mais on a pris 50 mètres à droite. Mais là, vous pouvez tomber nez à nez avec un serpent et vous êtes mal, hein? Ce n'est pas très agréable. Ensuite, vous vous souvenez de cette histoire du bon samaritain? Elle se passe où? Eh bien, on dirait Jérusalem et Jéricho. Il y a une personne qui tombe dans les mains d'un brigand. Mais pourquoi Jésus parle de ça? Parce que c'est connu. Quand vous faites Jéricho à Jérusalem, eh bien, il y a des bandes de brigands. C'est connu. Vous avez toutes les chances de tomber sur une bande de brigands, et plutôt le soir, la nuit ou le matin à l'aurore ou au crépuscule. Et cette histoire du brigand, elle ne tombe pas de nulle part. Si Jésus la donne, les gens se disent « Ah oui, oulala !» C'est là que se passe cette parabole. C'est dans cette région-là. Donc, en traversant ces montagnes, le pire est encore de tomber sur une meute de brigands qui vous dévalisera le peu que vous avez. Alors, on comprend maintenant le pèlerin qui s'est levé, qui marche, qui chante pour se redonner des forces et qui arrive vers ces montagnes et qui se dit « Bah, oh là là, faudra les traverser ces montagnes et ça ne va pas être simple. Je regarde vers les montagnes, je sais que j'approche de Jérusalem, je m'en réjouis, mais il y a ces montagnes. J'aperçois les collines de Juda. » Et je vois la montagne de Sion au loin et je me réjouis, mais l'angoisse commence à m'envahir parce qu'il faudra franchir ces montagnes. Or, certains, en lisant ce psaume, pensent que le pèlerin, il est plein d'admiration devant ces montagnes, mais pas du tout. Le pèlerin est plein d'angoisse face à ces montagnes qu'il faudra traverser. Je lève les yeux vers les montagnes. Ces montagnes me font peur. Je redoute de les traverser, mais le secours me viendra du Seigneur. Ce psaume est très personnel. Le premier mot que nous avons lu, c'est « Je lève les yeux vers les montagnes ». Pour trouver la force, le secours et la paix dans mon cœur auprès du Seigneur. Alors, le voyage de la vie est parsemé de dangers, d'incertitudes et de moments où l'on doute. Et d'où me viendra le secours? Passons au cliché 2. Cliché 2. Alors, pourquoi ce psaume, ce que chacun vit? Et ce psaume ne nous parle de la fidélité du Seigneur qui ne lâche pas, même quand l'environnement devient menaçant. Mais ce psaume ne promet pas l'absence de difficultés. Vous savez, on aimerait bien que Dieu aplanisse les montagnes. Alors il le fait, mais pas au psaume 121. Enfin, il faut lire d'autres textes pour lire que Dieu peut supprimer les montagnes. Il peut le faire, mais ici, dans ce psaume, Dieu choisit de ne pas supprimer les montagnes. Il faudra les traverser. Et ça me parle des montagnes qu'on a dans nos vies. Dieu peut les enlever, il est tout puissant, mais Dieu ne promet pas forcément de les enlever toutes. Et certaines de ces montagnes, nous aurons à les traverser parce que c'est le plan de Dieu que nous les traversions. Alors, mais qu'est-ce qui nous est dit ici dans ce psaume? Allons au diapo plus loin. À 6 reprises, et nous allons les étudier, ces 6 reprises, il est dit que c'est l'Éternel qui te garde et que c'est lui qui t'offre une protection parfaite. Alors, la première de ces protections, de ces choses, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Mais on va juste un tout petit peu étudier ça. Il, c'est qui? C'est Dieu. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Mais ton pied, j'ai réfléchi un bon moment à ça. Hein? Et qui dit ça? C'est le psalmiste. Il ne permettra pas que ton pied... Mais qui, c'est le pied de qui? J'ai réfléchi à... Ben, c'est peut-être bête de réfléchir comme ça, mais c'est le pied de qui? Alors, j'entends, si c'est mon pied, alors j'aurais plutôt dit, il ne permettra pas que mon pied chancelle. Mais ici, le psalmiste dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Donc, tout porte à croire que le pèlerin, ici, en l'occurrence, dans ce verset, marche à côté d'un autre pèlerin. Et cet autre pèlerin a peur que son pied chancelle, et le pèlerin de gauche dit au pèlerin de droite, « T'inquiète, mon pote, il ne permettra pas que ton pied chancelle. » Bon, c'est ce que je fais avec ma femme. Hein. Quand je marche avec elle dans la forêt, elle aime que les endroits où c'est plat comme une galette, et si possible goudronné, et sans racines. Mais sitôt que ça monte et qu'il y a... Je lui dis, ton pied ne chancellera pas parce que je te tiens. Il faut que je la rassure. Là, le pèlerin rassure un ami qui est à côté de lui et qui a peur que son pied chancelle. Mais tout ça, ça... il y a un message là derrière. Si tu as un frère à côté de toi, son pied n'est pas aussi bien aiguisé que le tien. Parce que toi, tu arrives à courir sur les montagnes. Mais ton frère, il n'arrive pas. Et il se foule les pieds chaque fois qu'il marche n'importe où. Mais tu peux le rassurer. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Vous savez, l'idée, c'est d'arriver. Ce n'est pas une course arriver à Jérusalem. Imaginez un pèlerin qui arrive seul. Tous les autres se sont fait mordre par des serpents, sont tombés dans les mains des brigands, sont tombés en bas des ravins. Puis on a 36 sur le bord du chemin avec leurs pieds qui chancellent, mais ils ne peuvent plus marcher, quoi. Ils ne peuvent plus aller de l'avant. Puis il y en a un qui arrive. Ah ben Seigneur, regarde comme je suis bon. Hein. Moi, je me suis entraîné, les autres non. Ben, t'es le seul au repas de l'agneau. C'est pas ce que nous dit la Bible. Il est dit qu'il y aura une foule immense. Mais la Bible aussi nous dit qu'on marche ensemble et que si un pied chancelle dans l'église, eh bien, les plus costauds, hein, je ne sais pas, notre frère à la sono, puis notre frère au PowerPoint, vous êtes costauds, et vous allez un à droite, un à gauche, vers ce frère, et vous le prenez. Et tant pis pour son pied qui chancelle, vous le portez, hein, hop, jusqu'à Jérusalem. Ça, c'est l'église. Si j'ai un frère ou une sœur qui passe par une difficulté dans l'église, je ne vais pas continuer à courir seul. Je vais le prendre à gauche, à droite, je vais le porter. Et pof, il sera surélevé. Ouh, comme je marche vite. Ah oui, il y en a deux qui te portent. Et hop. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est celui de mon voisin qui commence à chanceler, mais c'est le mien aussi. Le Seigneur protège tous les pieds. Parce que nous ne sommes pas seuls sur la route. D'autres sont en marche et bravent les mêmes dangers qui nous guettent tous. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. C'est le premier des 6. Allons plus loin, frère. Prochain cliché. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Oh, ça, c'est drôlement bien. Hein? Celui qui te garde ne sommeillera pas. Non, il ne sommeille pas. Mais vous vous souvenez... d'Élie au Carmel, qui se moque des prophètes de Baal. Là, suivant les textes que vous lisez, on a d'abord 400 prophètes, et puis ensuite on en a 300 autres, ou voire 350, suivant les textes que vous lisez, mais on a peut-être 750 prophètes qui acclament leur dieu Baal pour que le feu descende du ciel. Mais ce feu ne vient pas. Et Élie rigole en disant, mais tiens, votre Dieu, il fait la sieste. Il dort. Le problème, c'est qu'il ne dort même pas, le Dieu Baal. Il n'existe pas. Donc, vous pouvez invoquer un Dieu qui n'existe pas. Vous pouvez lui demander de venir vous aider. Vous pouvez être 700 à le lui demander. Simplement, s'il n'existe pas, il ne va rien se passer. Vous savez, dans l'Ancien Testament, vous avez des prophètes qui se moquent de ceux qui mettent un bout de bois dans leur jardin, qui l'adorent et qui se confient dans ce bout de bois et qui disent « ce bout de bois va m'aider ». Le problème, c'est qu'un bois, il est bon pour la cheminée, pour allumer votre feu, mais un bois ne vous aidera pas. J'étais à Hornbach, ici à Bienne, l'autre jour, pour acheter des produits pour mon jardin. Et puis, je vois des bouddhas à 10 francs les plus petits et 990 francs le plus grand. Et je regarde à la Neuville en me disant, mais qui achète ça? Quelques-uns, il n'y en a pas des masses, mais on en trouve. Les gens mettent un prix pareil en pensant qu'ils seront protégés. Et ces bouddhas rouillent, mais ces bouddhas n'assurent aucune protection. Le Seigneur, oui, mais pas des choses qui n'existent pas. Celui qui te garde ne sommeille pas. Alors, allons plus loin au cliché 5. Ici, l'Éternel est ton gardien. L'Éternel est ton gardien, ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Bon, mais là, j'ai un petit peu de peine aussi. On chope un coup de soleil pendant la nuit. Je comprends que le jour, le soleil peut être extrêmement fort. Et j'ai dit, j'étais dans ce désert. Il faisait 45 degrés. Il n'y avait pas d'ombre. Et j'avais qu'une pensée en tête, retourner dans le bus, et une autre. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Tu serais bien mieux dans les montagnes du Jura, au Chasseral. Qu'est-ce que vous faites? L'Éternel est ton ombre, le soleil ne te frappera point. Vous savez, j'aime bien promener ma petite fille quand il fait très chaud. Je la mets à côté de moi, le soleil arrive ici et elle bénéficie d'un peu d'ombre. Et puis quand on retourne, elle vient ici et c'est moi qui ai le soleil et c'est la petite qui a un peu d'ombre. Mais Dieu fait ça avec nous. Il s'interpose entre le soleil et nous pour qu'on puisse bénéficier d'un peu d'ombre. Alors ça, on peut le comprendre. Mais pendant la nuit, pourquoi avoir besoin d'une protection solaire pendant la nuit? Eh bien, c'est une hyperbole et les psaumes utilisent assez souvent ce type de langage. Ça veut dire, je résume, que la protection du Seigneur face au soleil est tellement forte que cette protection t'accompagne 24 heures sur 24 et donc aussi la nuit. C'est comme si j'avais à vous vendre, excusez-moi l'image, je devrais vous vendre une crème solaire. Je vous dirais que si vous la mettez le matin à 9 heures quand vous sortez à la plage, elle est si forte qu'elle vous tient jusqu'au lendemain à 9 heures. Alors, s'agissant de la protection du Seigneur, cette protection est tellement intense et forte qu'elle vous protège le jour des rayons du soleil, mais aussi la nuit. Par rapport aux rayons de la lune, si c'est nécessaire, mais peut-être plus par rapport aux brigands, par rapport aux ravins, par rapport aux bêtes féroces. Le Seigneur te protège. Maintenant, allons au cliché suivant. Ni la lune pendant la nuit, encore au cliché souvent, il gardera ton âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme? Jusqu'à présent, on a beaucoup parlé du corps, de la chaleur, d'éléments matériels qu'on peut voir, visualiser. Ici, l'âme. On est tous composés d'une âme. Et notre âme, c'est nos sentiments. Vous savez, on peut être en forme physiquement, on peut être au top parce qu'on a bien dormi, parce qu'on a bien mangé, mais à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Ça, c'est notre âme, nos sentiments, nos émotions. Vous savez, des fois, on ne va pas bien. Puis on nous dit, comment tu vas ? Ah, ça va bien. Ben non, ça ne va pas. Mais c'est peut-être pas... Voilà. Et le Seigneur sait. Il sait exactement tout ce qu'on a au fond de nous. Il gardera ton âme. Il te gardera pas seulement ton corps physique, mais aussi ton âme, tout ce que tu as à l'intérieur. Mais j'ai l'impression, voilà, nos tempêtes intérieures, Dieu les sait. J'ai peur de traverser cette montagne. Le Seigneur voit nos tempêtes intérieures, nos émotions ballottées comme le vent, nos tristesses, nos colères, toutes ces choses. Il nous garde, il nous protège, il le connaît, il le sait. Mais j'ai l'impression que quand on parle de l'âme, ça va plus loin. C'est le salut, il gardera ton âme. Notre frère qui a présidé a cité Éphésiens 1 et j'ai retravaillé ce chapitre. J'hésitais d'ailleurs à... C'est un des deux thèmes que j'ai proposé à Philippe, mais je reviens en juillet, j'ai envie de parler d'Éphésiens 1. Mais Éphésiens 1 nous dit, que nous dit Éphésiens 1 ? Il gardera ton âme. Il ne le dit pas comme ça, mais il est dit dans Éphésiens 1 que Dieu nous a connus avant même de créer le monde, de toute éternité. Il nous a connus. Vous imaginez qu'avant même de jeter la première pierre de cette terre, Dieu nous connaissait déjà. Et il nous avait choisis pour être avec lui pour l'éternité. Il connaissait notre nom, il connaissait tout de nous avant même de fonder la terre. Il nous a connus. Mais Éphésiens 1 va plus loin encore, tu l'as dit. Il nous préserve dans le salut. C'est Paul qui dit cela. Au fond, si Dieu fait alliance avec nous, c'est Éphésiens 1. Il nous tient par la main et sa main est suffisamment solide pour nous maintenir et nous garder jusqu'à ce que nous soyons pleinement à Jérusalem, dans cette Jérusalem céleste, dans sa présence, pour l'éternité. Amen. Vous savez, j'étais avec mon fils lorsqu'il avait 5 ans au rocher, là, au-dessus de Neuchâtel. Et il y a des endroits où c'est extrêmement dangereux. Et j'avais intérêt pour ma femme de rentrer avec lui entier. Et face au danger, je lui serrais tellement fort la main qu'il me disait « Aïe, papa, ça fait mal ». C'est ce que Dieu fait avec nous quand on est en danger. Il nous serre la main avec une telle force que c'est impossible de lâcher. Pourquoi ? Parce que Dieu veut, comme moi, quand j'ai promené mon fils... Là où j'aurais peut-être pas dû. D'ailleurs, j'ai repris une grande grondée de ma femme. Mais Dieu, lui, a décidé que nous arriverions à bon port, à Jérusalem. Et dans ce sens-là, il nous tient la main face à tous les dangers. Il te gardera, il gardera ton âme, nos tempêtes intérieures, mais aussi notre salut jusqu'à la fin. Dernier cliché, enfin cliché 8. Ça rejoint la même chose. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, depuis Jéricho jusqu'à Jérusalem, depuis ta naissance jusqu'à ce que tu sois aux noces de l'agneau, jusqu'à ton arrivée. Il le fait parce que lui s'engage. Il le fait parce que lui a décidé. Le contrat qui nous lie, entre guillemets, l'alliance qui nous lie à Dieu, dépend de Dieu, c'est lui. Nous, on ne pourrait rien. Spurgeon disait, si mon salut dépendait de moi-même, alors je le perdrais parce que je perds tout. Mes clés de voiture, enfin, je ne serais pas capable de me maintenir dans le salut jusqu'au bout. Mais Dieu le fait parce qu'il s'est engagé avec moi. Vous connaissez Spurgeon, qui était un des plus grands prédicateurs du 18e, 19e. Ton départ, ton arrivée, ton départ, notre départ ne commence pas le 16 août pour moi. Il commence avant la fondation du monde, comme pour toi. Dieu t'a connu avant la fondation du monde et il a décidé, avant même la fondation du monde, que ton chemin, il te gardera jusqu'à ce que tu sois arrivé à Jérusalem, aux noces de l'agneau. Alors, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Paul le répète dans Romains 8, 35. Vous connaissez Paul, sa belle retraite, hein, dans des belles chambres d'hôtel. Hein. Oui, il ne les payait pas, c'était la prison. Constamment en prison et dans des prisons sans toit. Certaines de ces prisons, c'était un trou dans la terre. On le mettait dedans, le trou faisait 5 mètres, il était lisse, il ne pouvait pas en ressortir. On lui jetait un petit peu à manger par le soleil en plein midi, c'était une horreur. Ça, c'était la retraite de Paul. Hein. Et qu'est-ce que Paul dit ? Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée ? Aucun de ces dangers n'a été épargné à Paul. Il a été persécuté, il a eu des angoisses, il le dit lui-même. Il a eu faim. Mais qui peut me séparer de l'amour du Christ ? Personne, aucune situation, rien, parce que l'Éternel est mon protecteur. Dernier cliché. As-tu l'impression que Dieu est absent parce que les difficultés étaient bien présentes? Eh bien, dépose tes peurs auprès du Seigneur et place ta confiance en lui. Relis peut-être ce psaume 121 et puis relis aussi Paul au chapitre 8, les versets 35. Amen.